Maintenant, nos Bibles, les regardons ensemble dans l'Épître aux Hébreux. Nous allons débuter dans cette étude le chapitre 2. Et mon texte est à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et je voudrais nous voir ensemble ce sujet, un si grand salut. Combien est grand le salut? Qui peut même mesurer ce salut que Dieu donne aux pécheurs par sa grâce en Jésus-Christ? Et l'auteur aux Hébreux met l'accent dessus parce que jusque-là, il y en avait au premier siècle qui étaient fascinés par les anges. Mais qui sont les anges en comparaison avec le Seigneur Jésus et que même les anges l'adorent en tant que Dieu? C'est de sa main que viennent toutes choses. Donc nous allons voir ici les différentes raisons que nous devons faire attention et écouter la parole de Dieu, ne pas dévier de ce message essentiel, exclusif de Christ et Christ crucifié. C'est pourquoi il commence dans Hébreux chapitre 2. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, c'est-à-dire selon la loi, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Je crois que ça c'est un mot-clé, parce que cette parole est adressée aux croyants du premier siècle, ceux qui étaient des Juifs et qui connaissaient très bien la loi de Dieu. Donc, ce n'est pas adressé ici à ceux qui se rebellent contre un si grand salut. Mais nous savons dans notre nature, même en tant qu'enfants de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, combien cette chair dans laquelle nous vivons nous pousse souvent à négliger, à oublier le si grand salut que nous avons en Jésus-Christ. Donc, il ramène les lecteurs ici au point central de Christ dans toutes les Écritures. Et ce si grand salut qui est en lui, annoncé d'abord par le Seigneur. Donc, il donne les raisons pour lesquelles nous devons de plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Là encore, c'est clair qu'il s'adresse ici à ceux qui sont des croyants, parce que celui qui a des oreilles pour entendre, il entend. C'est Dieu qui donne les oreilles. Et donc, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles, nous éloigner de ce qui est vital en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, le verset 3 nous dit, qui annonçait d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Là, l'auteur aux Hébreux est en train d'écrire, surtout en ce qui concerne les apôtres, parce qu'ils ont entendu cette parole de Christ directement, et puis ensuite, c'est eux, ces apôtres, ces disciples, qui ont communiqué cette parole aux autres. C'est ça qui nous montre que ce que nous avons à connaître en ce qui concerne le Seigneur Jésus, c'est d'abord de lui-même, Christ, et puis par la voix des apôtres. Notons bien le verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc ici, ça commence, c'est pourquoi. C'est ça qui relie ce passage à ce que nous avons déjà vu dans le premier chapitre. L'auteur ayant déjà déclaré la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus-Christ au-dessus des anges, mais aussi au-dessus de toutes créatures. Donc, ici, il continue, c'est pourquoi. Quand il dit c'est pourquoi, cela veut dire que je sais qu'il y a un nouveau chapitre qui débute ici, mais il faut savoir que ces chapitres ont été insérés plus tard. Ces divisions ont été insérées pour assurer la facilité de se retrouver dans ces écritures. Sinon, au début, tout était, par exemple, une seule épître, du début jusqu'à la fin, comme on lit une lettre. Mais pour faciliter, surtout pour la lecture publique et la prédication publique, faciliter pour se retrouver quand nous sommes en train de lire, comme je peux dire, regardons Hébreux chapitre 2, ça nous aide à nous retrouver tous sur la même page. Mais souvent, quand on met ces divisions de chapitres, on oublie que non, c'est la continuation, c'est une seule épître, un seul paragraphe qui continue. Donc, le « c'est pourquoi » nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Cela nous rappelle que toute cette écriture est la révélation de la grâce et la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Et puisque Christ est infiniment au-dessus de toutes choses, non seulement les anges, mais aussi les prophètes, les sacrificateurs, comme nous avons vu dans le premier verset du chapitre 1, auparavant, il avait parlé de plusieurs manières à partir des prophètes, mais maintenant, donc c'est le même « mais maintenant » que nous sommes en train de regarder ensemble. Puisque Christ est qui il est, donc combien nous devons à prêter l'attention à tout ce que les Écritures ont à nous dire à son sujet. Par conséquent, en raison de sa supériorité, en tant que Seigneur Jésus, nous devons prêter attention. Alors la leçon de ce chapitre que nous sommes en train de voir, ce texte, dans les versets 1 à 4, on peut relever quatre points à retenir. Premièrement, c'est le fait que Christ est le Messie. C'est ce que le nom Christ signifie. Il est celui dont les Écritures nous parlent. Dans l'Ancien Testament, les Écritures annonçaient qu'il y avait le Messie qui devait venir. Le Nouveau Testament nous annonce, surtout dans les évangiles, qu'il est venu, exactement comme ça a été annoncé. Et les Épîtres annoncent qu'il vient encore. Donc c'est de lui que tous les messagers de l'Ancien Testament parlaient. Et le dernier messager, si vous voulez, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi il dit ceci, que la parole auparavant annoncée par les anges, c'est-à-dire il parle là de la loi, de la manière que Dieu a communiqué sa loi à Moïse par l'intermédiaire des anges. Il y a plusieurs passages de la Bible qui parlent de cela. C'est la manière que Dieu a communiqué sa loi à Moïse, mais maintenant, c'est à travers son Fils. Comme nous avons vu dans Hébreux 1 et le verset 2, dans ces derniers temps, les derniers temps ont débuté lorsque Christ est venu la première fois. Il y a beaucoup de gens qui courent pour spéculer, pour savoir, mais quelle sera sa deuxième venue, qui n'ont jamais compris sa première venue. Alors, c'est de ce salut que l'auteur parle ici, comme raison que nous devons tenir davantage au sérieux les choses que nous avons entendues, de peur de nous éloigner nous-mêmes. Comme j'ai dit, ceux qui appartiennent au Seigneur ne peuvent plus se rebeller contre cette parole concernant Christ. Il y avait un temps peut-être que nous étions des rebelles et insensés, ne connaissant pas Christ, mais depuis qu'il a plu à Dieu de révéler Christ en nous, donc nous ne sommes pas de ceux qui se rebellent ou qui cherchent autre chose, mais il faut savoir que nous sommes de nature à nous éloigner à cause de notre nature pécheresse. Donc, le premier point ici, encore, c'est comment Christ est primordial. C'est lui qui prédomine toutes choses. Et quand il parle ici dans le premier verset de nous attacher aux choses que nous avons entendues, quelles choses? Les choses concernant Christ, concernant sa personne, concernant son œuvre qu'il est venu accomplir, concernant ceux pour qui il est venu et ce qu'il a accompli en venant. Donc c'est la première exhortation que nous voyons ici. Deuxièmement, le but de ne pas nous éloigner de ce que nous avons entendu, c'est donné dans la dernière partie du verset 1, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. C'est évident que laisser à nous-mêmes, si l'Esprit de Christ ne nous garde, ne garde nos cœurs, que ce cœur que nous avons en nous allait nous faire éloigner de ces choses révélées dans les Écritures. On ne peut pas s'éloigner de Christ en ce qui concerne notre salut. Parce que lorsque Christ sauve, il sauve parfaitement. Mais certainement dans nos esprits, dans nos paroles, dans nos pensées, combien c'est facile d'être distrait par autre chose. Même en ce qui concerne différents sujets de la vie, combien les gens aiment poser des questions. Je reçois des questions tout le temps, qui ne sont pas des questions vitales, parce que les questions ne sont pas posées en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, mais les gens veulent retourner dans les Écritures et relever des questions philosophiques, ou bien des questions en ce qui concerne la culture, ou bien d'autres questions qui, en fin de compte, ne font que nous faire emporter loin de Christ. C'est pourquoi, en tant que prédicateur, lorsque nous prêchons, il faut savoir que tous ceux qui viennent ont toutes sortes de pensées et ils vont poser leurs questions, mais c'est à nous de les ramener sur ce qui est vital afin de ne pas être emportés nous-mêmes par ces questions. Et même Paul, en écrivant à Timothée, l'a mis en garde concernant ces questions qui ne font que provoquer des discussions vaines. Mais en ce qui concerne Christ, même en ces choses, nos pensées ne doivent pas être éloignées de lui. Mais si nous sommes honnêtes, et j'espère que nous le sommes, nous devons avouer combien de fois pendant la journée nos pensées sont ailleurs. et même en ce qui concerne la préparation dans la prédication, pour la prédication, et aussi dans la prédication. Nos pensées s'éloignent si facilement de Christ, et pour cela, nous devons vraiment demander au Seigneur de nous ramener toujours à lui et de ne pas nous éloigner de ce qui est clairement révélé ici dans sa parole. Mais le troisième point que nous voyons ici, ce concerne la loi. Nous devons prendre au sérieux l'évangile du Christ autant plus même que la loi, parce que nous savons que l'évangile et la loi ne sont pas séparés. Il fallait que Christ vienne dans la chair et qu'il accomplisse non seulement la lettre de la loi, mais même l'esprit de la loi, qui devait tout accomplir, tellement la loi exigeait cette obéissance parfaite. Donc, si dans nos pensées, par exemple, et comme ceux du premier siècle, ils commençaient à être fascinés par les anges ou même par les prophètes et autres, leur histoire, dans cela, ils s'éloignaient de Christ. Ici, l'auteur nous rappelle que s'éloigner de Christ, c'est s'éloigner de celui qui est l'accomplissement de la loi. Il y en avait qui voulaient aller encore en arrière et étudier la loi comme si la loi était encore en force. Et ici, l'auteur dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, il est en train de parler de ce que c'était de vivre sous la loi, qu'il n'y avait pas de miséricorde sous la loi. Si quelqu'un pensait pouvoir satisfaire cette loi parce que ça exigeait une obéissance parfaite. Alors c'est pourquoi nous ne devons pas être emportés loin de ce que l'Évangile annonce concernant Christ, l'accomplissement de la loi, parce que le salut est en lui. Ce n'est pas dans notre observation de la loi. Toute la loi a été donnée pour nous conduire à Christ. Et il nous dit dans le verset 3, comment échapperons-nous alors en négligeant un si grand salut? Il n'y a pas de salut par une obéissance quelconque de la loi. Et la fascination avec les anges, bien sûr, Dieu s'est servi des anges dans l'Ancien Testament pour communiquer sa parole à Moïse comme médiateur. Et il y a des versets que vous pouvez voir, par exemple, dans Deutéronome chapitre 33, le verset 2. Je ne voudrais pas laisser le texte ici, mais Galates chapitre 3, le verset 19, ça parle de cette manière que Dieu a communiqué sa parole auparavant à les prophètes à travers la médiation de Moïse, mais ceux-là ne sont pas la parole finale. La parole finale de tout ce qui a été communiqué, c'est Christ. Donc, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ? C'est pourquoi, en tant que prédicateur, nous devons faire attention, quel que soit le passage, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, que ce soit Christ qui est déclaré et son œuvre accomplie. On ne doit pas être comme certains qui s'imaginent, non, si on est dans l'Ancien Testament, donc on prêche la loi, on prêche la morale et autre chose. Les règlements, non. C'est Christ qui a été annoncé dans l'Ancien Testament et c'est Christ qui est l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. S'il y en a qui sont tentés de retourner encore sous la loi, donc ils ont négligé d'entendre ce que dit la loi. Comme c'est écrit dans le verset 2, toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Est-ce que vous voulez vraiment aller vous remettre sous la loi pour dire, ah, ceux-là n'ont pas pu obéir, mais moi, je ferai l'effort? Non. Faut savoir que se mettre sous cette loi, sans Christ, c'est de se mettre sous la juste condamnation de Dieu. Alors nous voyons ici pourquoi c'est si sévère de négliger Christ et qui il est et ce qu'il a accompli. Je dirais il y a 5 raisons, 4 raisons que nous pouvons citer ici. Je sais qu'il doit en avoir plus peut-être, mais au moins je relèverai 4. À répondre à la réponse à cette question, comment le salut est un si grand salut? Et c'est bien pour nous de réfléchir là-dessus. C'est si grand, premièrement, parce que, comme nous voyons ici dans ce passage, c'est Christ qui en est l'auteur. Quand on parle du salut, ce n'est pas un plan, comme les gens prétendent aujourd'hui, ABC. Si vous voulez être sauvé, voilà, A, B, C, et donc, vous pouvez être sûr de votre salut. Non. Le salut n'est pas un plan. C'est une personne, et c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il en est l'auteur. C'est pourquoi, dans le verset 3, en parlant de ce si grand salut, l'auteur ici dit, qui a annoncé d'abord par le Seigneur. Ce que nous avons annoncé, c'est par le Seigneur. C'est en lui, c'est à lui, c'est à travers lui. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. Lui, il en est l'auteur. Dans Hébreux chapitre 5, et il y a beaucoup de versets qui peuvent confirmer cela, mais ici, nous voyons comment le salut est si grand, puisque Christ en est l'auteur. Hébreux chapitre 5, et le verset 8 et 9, c'est écrit, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est pourquoi le salut est ce que c'est. Et c'est un si grand salut parce que ça ne pouvait pas être accompli par le pécheur. Il fallait que Christ vienne. Et dans le verset 7 du même chapitre 5 d'Hébreux, c'est écrit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, cela veut dire après avoir accompli tout ce qui est nécessaire pour le salut, à travers sa mort, la ressuscité, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût fils. Il devait être soumis à cette loi, non seulement à la lettre de la loi, mais à l'esprit de cette loi. Et c'est lui qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et que après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Qui sont ceux qui lui obéissent? Ce mot signifie ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui reçoivent par l'esprit de Dieu des oreilles pour se soumettre. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Voilà pourquoi c'est un si grand salut. parce que c'est un salut éternel accompli par son auteur qui est Christ et non par nul autre. Deuxièmement, c'est un si grand salut à cause de la sagesse de ce salut. Laissé à nous-mêmes, on n'aurait jamais pu savoir comment satisfaire à un Dieu saint et être sauvé d'une manière juste, parce que Dieu ne peut pas diminuer sa justice ou mettre de côté sa justice pour sauver le pécheur. Il fallait que sa justice soit satisfaite. Donc, en cela, nous voyons la sagesse de Dieu dans ce salut et comment, à travers l'œuvre de Christ, que Dieu est juste tout en justifiant ceux qui croient en son Fils. Regardons dans Romains chapitre 3. Et encore, il y a beaucoup de versets qu'on pouvait regarder, mais nous touchons quelques-uns ici. Dans Romains chapitre 3, c'est écrit dans le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà notre état, même en tant qu'élus de Dieu. Si Dieu nous a choisis depuis l'éternité, néanmoins, c'est des pécheurs qu'il a choisis et nous sommes nés dans ce monde pécheurs. Mais, verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quelle sagesse de Dieu qui a trouvé le moyen à travers la rédemption qui est en Jésus-Christ de rester juste lui-même tout en justifiant ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, cette foi que lui-même il donne. Verset 25 dit, c'est lui, encore, Christ est l'auteur, Christ est l'essentiel du salut, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Il y en a qui aiment bien parler de la prédestination et de l'élection, et c'est vrai, ce sont des vérités que nous voyons dans la Bible, mais nous ne devons jamais nous détacher du fait que cette élection et cette prédestination est en Jésus-Christ. Même en cela, nous devons avoir peur que nous ne soyons emportés loin du Christ, même en prêchant l'élection et la prédestination. C'est lui que Dieu a destiné. Par son sang. Il y en a qui disent, non, mais dès que Dieu l'a ordonné depuis l'éternité, voilà, le salut était accompli. Non. Par son sang, Christ n'avait pas de corps dans l'éternité. Il fallait qu'il vienne et qu'il prenne chair comme ceux qu'il est venu sauver, mais sans péché. Donc, par son sang, rien n'a été accompli définitivement jusqu'à ce que Christ a versé son sang. Et c'est là que Dieu, maintenant, voyant le sang, a pu justifier chacun pour qui Christ est mort. Et à être, c'est écrit, pour ceux qui croiraient. Ouais, d'abord, son sang versé et le fruit de cela. Comment est-ce que nous pouvons savoir si Christ est mort pour nous? Ceux pour qui il est mort, qu'il a versé son sang, y croiront. C'est l'Esprit qui leur donne cette foi de croire en Christ. Tout cela, c'est la sagesse de Dieu dans l'accomplissement du salut. Pour ceux qui croiraient, quoi? Victime propitiatoire. Ce mot propitiatoire signifie de détourner la colère et la justice de Dieu de l'objet qui méritait sa colère, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuner les péchés commis auparavant. Ça parle là de l'Ancien Testament. Ceux qui appartenaient au Seigneur dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas puni leurs péchés. Cela veut dire, il ne les a pas punis parce qu'il a déjà ordonné à ce que leur péché soit imputé, attribué au compte du Seigneur Jésus. Et lorsque Christ est venu, c'est lui alors qui a porté ses péchés. Mais tout ce temps dans l'Ancien Testament est appelé ici le temps de sa patience. Parce que Dieu avait déjà élu son peuple là, mais dans sa patience, il n'a pas puni leur péché. Bien sûr, ils offraient des sacrifices, mais les sacrifices des animaux ne pouvaient pas enlever le péché. Jusqu'à ce que Christ soit venu, et c'est Christ qui a porté le péché. C'est pourquoi il dit, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. De manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Vous ne voyez pas la sagesse et la majesté de Dieu révélée à travers l'Évangile dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas appréhender ce salut de notre intelligence ou bien par notre raisonnement. Non, c'est la sagesse de Dieu révélée en Christ. Et c'est pourquoi alors c'est un si grand salut. Non seulement que Christ est l'auteur, c'est pourquoi c'est un si grand salut, mais deuxièmement, à cause de la sagesse dans ce salut, la manière que Dieu soit juste tout en justifiant. Mais troisièmement, nous devons voir aussi que c'est un si grand salut en ce que ça a coûté, dans le prix payé. Ce n'est pas que Dieu a simplement regardé ailleurs pour sauver le pécheur. Non, ça a exigé un grand prix. Et là encore, nous ne devons pas être emportés loin de ce que Christ a accompli en donnant sa vie. C'est le prix que Dieu a exigé pour le salut qui rend ce salut si grand. Et le fait que Christ a payé la dette, la peine qui était exigée du pécheur, c'est un paiement, et c'est ça que nous voyons le si grand salut, même dans le prix qu'il a payé, parce que ça ne peut jamais être renversé. Et pour quel péché alors est-ce que Dieu va condamner un de ceux pour qui Christ est mort? C'est pourquoi c'est la folie d'entendre ces prédicateurs prêcher et dire qu'il y en a qui sont à l'enfer pour qui Christ a payé la dette. Ça, ce n'est pas un si grand salut. Je peux l'avouer. Dire à quelqu'un que Christ est mort pour vous, mais hélas, si vous n'acceptez pas ou bien si vous ne faites pas attention, vous allez terminer par être envoyé à l'enfer, ça ce n'est pas un si grand salut. Un si grand salut, c'est de savoir que lorsque nous étions encore des pécheurs, comme c'est écrit dans Romains 5, lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions même ennemis, c'est la manière que Paul décrit dans Romains 5, nous avons été réconciliés à Dieu. Par quoi? Le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce si grand prix dans 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 20. Contemplons quel était ce prix. C'est écrit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Un prix que le pécheur ne pouvait jamais payer et rendre. Ce salut a été accompli à un grand prix. Ça a exigé la mort du Seigneur Jésus-Christ. Glorifiez donc Dieu qui reçoit la gloire en ce si grand salut. C'est Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Oh, que Dieu nous donne son esprit afin que nous ne nous éloignions pas loin de celui qui a payé ce si grand prix. Mais quatrièmement, le salut est un si grand salut à cause de sa puissance. Ce n'est pas que le salut que Christ est venu accomplir nous rend capables d'être sauvés. Mais dans l'Évangile, nous voyons la puissance de Dieu révélée pour le salut. C'est à travers cet Évangile, l'œuvre de Christ, que nous voyons le salut accompli. Dans Romains chapitre 1 et le verset 16, c'est pourquoi Paul dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. Nous avons raison d'avoir honte de beaucoup de ce qui se passe dans la religion aujourd'hui, même sous le titre de christianisme. Les gens aiment se dire chrétien. Mais c'est la honte quand on considère que c'est fondé sur les œuvres ou bien la volonté de l'homme, une contribution quelconque de l'homme, ça c'est pas l'Évangile. Donc, nous n'avons point honte de l'Évangile, voilà ce qui fait notre joie. Et cet écrit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas conditionné sur la croyance de l'homme, mais gardez le verset tel que c'est révélé, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si quelqu'un croit, c'est à cause du fait que l'Évangile lui a été révélé. Et c'est le fruit de cet Évangile, de ce que Christ a accompli, qui produit cette foi. Que ça soit du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Dans cet Évangile qui déclare Christ est révélé l'Évangile, révélé la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi. Quand c'est écrit par la foi, le mot foi là signifie, c'est objectif, c'est la foi qui est la révélation de Christ et c'est pour la foi. C'est à la gloire de celui qui est révélé à travers l'Évangile, selon qu'il est écrit le juste. Il n'y a rien de juste, personne n'est juste en lui-même, mais le juste vivra par ou selon cette foi qui est révélée dans l'Évangile. Donc voilà quatre raisons pour lesquelles ce salut est un si grand salut. Et ça a été annoncé d'abord par le Seigneur lui-même, et puis confirmé par les apôtres. C'est pourquoi il dit dans le verset 3, « Nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » C'est un évangile, un salut qui était d'abord établi et approuvé de Dieu le Père depuis l'éternité. Mais avec le temps, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu le Père a envoyé son Fils dans ce monde d'accomplir ce qui a été prédit depuis l'éternité. Donc, établi d'abord par le Père à travers le Fils, mais transmis. C'est pourquoi nous avons ces épîtres aujourd'hui que nous lisons. Il a donné à ses apôtres non seulement le témoignage de Christ, c'est écrit dans le verset 3, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Nous ne devons pas nous douter de cet évangile, de ce salut qui est révélé ici, parce que ça a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ils ont marché avec Christ. Ils ont reçu cet évangile directement de lui. Pas par l'intermédiaire des anges, comme c'était nécessaire pour Moïse, mais par Christ lui-même. Et c'est écrit, Dieu appuyant leur témoignage, c'est pourquoi les miracles n'ont pas été donnés pour toute l'Église. Ici, c'est écrit la raison pour laquelle Dieu a fait des miracles, a donné des signes. C'était pour appuyer le témoignage de ses apôtres, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore complet. Et donc, lorsqu'il sortait pour annoncer Christ, il s'appuyait bien sûr sur l'Ancien Testament, mais Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit. C'était la raison pour laquelle Dieu a donné ces signes et ces miracles que les gens poursuivent aujourd'hui. C'était pour confirmer et affirmer. C'est pourquoi ce n'est plus nécessaire aujourd'hui d'avoir de tels signes. Christ a dit que c'est une génération adultère qui cherche les signes. Au lieu de voir à travers ces signes la confirmation de Christ et de qui il est, de ce qu'il est venu accomplir. Donc c'est à travers l'Esprit de Dieu qu'ils ont annoncé ce témoignage de Christ. Et c'est pourquoi nous pouvons nous fier aujourd'hui à ce message. Mais notons bien à la fin du verset 4 ce qui est très important. Distribuer selon sa volonté. Ce n'est pas selon la volonté des hommes, comme nous avons aujourd'hui des gens qui cherchent des miracles et qui s'approchent de ces hommes qui se disent pasteurs et qui s'établissent comme étant apôtres. Et les gens les poursuivent pour avoir des signes, des miracles, autre chose. Tout ça, c'est une déviation. En fait, il faut faire attention, parce que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, Paul dit que dans les derniers temps, et nous vivons dans les derniers temps, que les gens poursuivront des signes, des miracles, des prodiges. C'est écrit dans le verset 9 de 2 Thessaloniciens. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de qui? Satan. Voilà ce qui est la force derrière ces miracles et ces signes aujourd'hui. C'est la puissance de Satan, l'adversaire, l'antichrist. Beaucoup attendent un jour un antichrist qui doit venir, mais Jean dit qu'il est déjà dans le monde. À travers ces faux prédicateurs, animés par la puissance de Satan, et c'est écrit avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, mais mensongers. Ceux qui se fient à ces signes et ces miracles poursuivent des faux prédicateurs, un faux message. Et c'est écrit avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. D'égarement! C'est le contraire de ce que nous lisons ici dans Hébreux chapitre 2, de faire attention de ne pas être égarés. Ceux qui ne sont pas appelés seront égarés. C'est un esprit d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Tel ne peut pas être notre fin si nous sommes en Christ, s'il a accompli ainsi grand salut à notre égard. Mais d'ignorer ce message, ce si grand salut, il ne reste que le jugement pour ceux qui sont abandonnés à eux-mêmes. Donc que le Seigneur soit glorifié à travers ce que nous avons entendu. Et Dieu merci pour ce si grand salut que Dieu a ordonné et que Christ a accompli en faveur des pécheurs tels que nous sommes. Amen.